l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
En ce début d'année 2022, la progression rapide du variant Omicron fait planer le risque d'une saturation des hôpitaux. Et nous allons connaître la situation du centre hospitalier de Narbonne avec Alain Perret, le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, quelle est la situation au centre hospitalier de Narbonne ?
Bah écoutez, elle est tendue, hein. Elle est tendue depuis un petit peu avant Noël. Une augmentation assez rapide des cas, puisqu'on a été obligé de recréer à nouveau un service de médecine de 26 lits, et puis de monter la capacité de la réanimation de 8 à 12 lits, donc de 50%, hein, ce qui paraît pas énorme en termes de chiffres bruts, mais qui est quand même très conséquent. Hein. Un lit de réanimation, c'est assez précieux, ça se crée pas comme ça, ça demande énormément de personnel et de matériel. Et donc voilà, donc on est aujourd'hui une situation qui ressemble à celle du mois d'août, avec plus de 30 patients Covid hospitalisés sur l'hôpital de Narbonne. Bon, au mois d'août, on était monté jusqu'à 54. On est encore un petit peu en dessous, mais la situation est quand même assez tendue.
Et combien de personnes en réanimation Covid ?
Alors aujourd'hui, on a 12 lits de réanimation, et sur les 12 lits de réanimation, on a 10 patients Covid, sachant que ça nous a obligés à limiter, voire arrêter complètement l'activité chirurgicale de l'hôpital, pour éviter qu'il y ait une surcharge secondaire de la réanimation.
Est-ce que les personnes Covid au centre hospitalier de Narbonne sont vaccinées ou pas ?
Alors il y a encore une majorité de gens qui ne sont pas vaccinés, ce qui est toujours un peu désolant. Hein. On a l'impression qu'il y a une partie de la population qui sera complètement réfractaire à ça, pour des raisons qui me paraissent, enfin que j'ai du mal à comprendre, mais bon, peu importe, mais... On aurait dû, normalement, les statistiques devraient montrer qu'il devrait y avoir plus de vaccinés que de non-vaccinés, hein, tout simplement parce qu'aujourd'hui, 90% de la population adulte est vaccinée, donc il devrait y avoir mécaniquement un peu plus de vaccinés que de non-vaccinés en réanimation et en médecine Covid, mais c'est pas le cas. Il y a encore une grande majorité de gens non-vaccinés en service Covid. Mmh. Avec chez les gens vaccinés, pour le coup, on est plutôt sur des gens qui sont ou qui ont des problèmes médicaux surajoutés, hein, des immunosuppressions, enfin de différentes maladies chroniques, ou qui sont un petit peu en fin de programme de vaccination, c'est-à-dire qu'ils ont eu les deux premières injections il y a plus de 4 ou 5 mois. Donc je pense que ça renforce cette idée de faire une troisième dose pour relancer l'immunité anti-Covid, en fait. Hein.
Mmh. Et est-ce que vous avez eu des patients qui ont eu le variant Omicron ?
C'est difficile de quantifier, hein, parce que le séquençage qui permet d'identifier avec précision le variant est assez lent et en tout cas arrive un petit peu quelques jours après l'hospitalisation. Donc c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir des vraies stats, hein, puisque les gens qui sont rentrés très récemment, on n'a pas encore leur phénotype de virus, mais il y a effectivement quelques patients Omicron, mais on a du mal à avoir une photographie très précise.
Et là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de dire si nous sommes actuellement au pic de cette cinquième vague ?
Alors, c'est difficile de le faire avec précision, en sachant qu'à Narbonne, pour des raisons que je ne connais pas, on est toujours un tout petit peu décalé par rapport au stade national. Hein. Je rappelle qu'au mois d'août, on avait été grandement impacté par le Covid, alors qu'en France, c'était plutôt mitigé. Là, on est légèrement, j'allais dire, en avance par rapport à l'épidémie nationale, où j'ai l'impression qu'on a eu notre pic il y a quelques jours. Enfin, on est plutôt sur le sentiment qu'on est sur le pic. Après, c'est là qu'intervient l'inconnu Omicron, c'est-à-dire on ne sait pas dans quelle mesure ce variant qui paraît plus contagieux que les autres va impacter les hôpitaux, en fait. Hein, les Anglais ont fait des études qui montraient que finalement ça impactait pas tant que ça les hôpitaux, mais pour l'instant on n'a pas de certitude. De ce qu'on a calculé nous par rapport aux vagues précédentes sur le Narbonnais, le pic ce serait plutôt autour de cette semaine, fin de semaine, on aurait le pic d'hospitalisation sur le Narbonnais avec l'inconnu Omicron. Donc on espère, en tout cas, on espère très fort qu'on arrive sur le pic en fin de semaine, quoi.
Docteur Perret, comment peut-on expliquer l'explosion de nouveaux cas de Covid-19 dans un pays où le taux de vaccination est élevé, ou bien ce taux reste-t-il encore insuffisant en France ?
Alors, parce que je pense que il y a eu un espoir qui a été un peu déçu, c'était que la vaccination limite considérablement la transmission. ce qui semble pas être le cas, hein. Il y a quand même une transmission même chez les vaccinés. Par contre, ce qui est certain, et ce que nous on constate au quotidien, c'est que la vaccination limite considérablement les formes graves, parce qu'aujourd'hui, on a un taux de cas Covid qui est colossal, hein, qui dépasse de loin les vagues précédentes. Et l'impact hospitalier, même s'il est réel, il est pas aussi important que ce qu'on a pu connaître en février de l'année dernière, en février 2021, où ça a été absolument terrible, et en termes d'hospitalisation et en termes de mortalité. Aujourd'hui, on a quand même un impact hospitalier. Nous, on est la dernière roue du carrosse. Hein. C'est quand la médecine générale fait son travail, il y a les gens qui sont asymptomatiques, il y a ceux qui sont asymptomatiques mais sont traités par les médecins généralistes. Puis il y a finalement ceux qui viennent à l'hôpital pour les raisons que j'ai citées précédemment. Voilà, donc l'hôpital n'est pas tant impacté que ça par rapport à la taille de la vague. Donc ça veut dire que la vaccination fonctionne. Elle fonctionne dans le sens qu'elle va limiter les formes graves. Par contre, elle ne semble pas limiter tant que ça la transmission, en fait, et a fortiori avec les nouveaux variants.
Autre question, le gouvernement veut instaurer le pass vaccinal. Percevez-vous cette mesure comme efficace ou cela ne changera pas fondamentalement la situation ?
Je pense que c'est une mesure qui peut être efficace pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit qu'il y a un fond incompressible de gens qui refusent la vaccination, et sur lesquels on n'a pas de prise. C'est-à-dire à peu près toutes les techniques pédagogiques ou d'explication ont été faites et ça ne fonctionne pas. Donc le fait de la rendre obligatoire, ça va amener les gens à le faire, c'est la première chose. Et la seconde, pour les gens qui finalement, j'allais dire, il y a une petite prédisposition psychologique, c'est-à-dire que même les gens qui finalement avaient dit qu'ils ne se vaccineraient pas et qui seraient amenés à se faire vacciner, perdront pas la face parce que c'est obligé en fait, vous voyez, il y a le côté, moi je suis resté contre le vaccin, mais c'est obligatoire, donc je le fais, vous voyez. Donc je pense que ça peut être une petite astuce sur certaines personnes pour faire la vaccination tout en gardant le côté, je suis resté un rebelle jusqu'au bout, j'ai pas fait ma vaccination, vous voyez.
Tout à fait. On a vu le cas tout récemment de personnages connus qui sont décédés du Covid et dont on sait qu'ils n'étaient pas vaccinés. Avez-vous le sentiment que ça a un impact sur ceux qui refusent encore la vaccination ?
Je sais pas, parce que les gens qui refusent aujourd'hui la vaccination, ils la refusent parce que ils pensent que la médecine traditionnelle leur ment pour X raisons. Hein. Moi, j'ai déjà dit que ça me paraît, il y a plein de manières de refuser la vaccination. Il y a une forme d'angoisse, il y a une forme de méconnaissance, puis il y a beaucoup une question de méfiance où les gens se méfient des informations générales, se méfient du discours médical, se méfient de tout ce qui peut ressembler à un discours officiel. Donc sur ça, je sais pas si ça va changer grand chose parce que on va expliquer que non, que finalement c'était pas ça, que c'était pas le Covid. Enfin, je suis pas certain que ce genre d'information, parce qu'il y a une telle défiance de la parole publique, une telle défiance de la parole officielle, que j'ai pas l'impression que ça puisse changer aujourd'hui, parce que, il faut quand même se rendre compte que l'immense majorité des Français n'a pas eu besoin d'être convaincus. Hein. Moi, j'ai le souvenir de quand on a ouvert le centre de vaccination à l'hôpital il y a un an. Ça a été la ruée, les gens faisaient la queue, les gens appelaient, les gens essayaient de s'incruster par toutes les manières possibles. Donc l'immense majorité des Français se sont vaccinés de plein gré et sans aucune retenue, quoi. Il y a une partie des Français qui était un peu méfiante, ça me pose pas de soucis, hein. Je pense qu'il y a eu besoin d'expliquer, il y a besoin d'être rassuré, il y a besoin de voir un petit peu comment ça se passait. Donc il y a plein de gens qui se sont vaccinés, dans le second temps, parce qu'ils ont vu que les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. Il y a des gens qui se sont vaccinés par intérêt, entre guillemets, c'est-à-dire en se disant, moi je veux continuer à aller dans les bars, dans les restos, etc. Donc il y a plein de manières d'aller à la vaccination. Je pense qu'il y a plein de couches. Je pense que la dernière couche, le dernier carré d'irréductible, je vois pas trop quels sont les arguments, à part l'obligation. Il y a aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour des arguments direct ou indirect pour convaincre les gens de se vacciner, à mon sens.
On est maintenant à la troisième dose pour la vaccination. Votre expérience sur le terrain vous fait-elle envisager une quatrième dose ou plus ?
Il semblerait qu'il y ait un épuisement assez rapide de l'immunité provoquée par ce vaccin. Ce qui est un peu déstabilisant, évidemment. Hein. On préférait tous avoir faire trois injections et que ce soit réglé. Après, c'est pas si rare que ça, hein, les la vaccination contre la rage, c'est 4 ou 5 injections. Enfin, il y a d'autres vaccins qui ont besoin d'avoir pas mal de rappels pour avoir une efficacité certaine. Il y a même des vaccins, on se rappelle du BCG, qui fonctionnait pas très bien. Il y avait des gens qui multipliaient les injections et sur lesquels qui n'arrivaient jamais à développer une immunité suffisante pour s'être protégé de la tuberculose. Donc, ça serait pas complètement surprenant que le vaccin s'épuise, en fait. Surtout que le virus circule beaucoup. Et on sait que quand il circule beaucoup, il va muter, il va se défendre. Et le virus va se défendre contre nos armes à nous, c'est-à-dire le vaccin, quoi, vous voyez. Donc, c'est pas si extraordinaire que ça, quand on regarde l'histoire des infectieuses, que le vaccin s'épuise en termes d'efficacité. Surtout sur une pandémie, c'est-à-dire avec une grosse circulation de virus et donc de gros changements et de grosses capacités. Je rappelle simplement que le virus de la grippe est obligé d'être renouvelé chaque année parce que chaque année, le virus de la grippe mute. Et peut-être que le coronavirus, on ne sait pas trop pour l'instant comment ça va évoluer, mais le fait qu'il faille modifier les programmes vaccinaux, c'est pas si exceptionnel que ça, surtout pour finalement une pandémie qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité, parce que l'attaque du coronavirus, elle a 2 ans, quoi, vous voyez. Donc on est encore sur le, je vais dire presque l'adolescence du virus, quoi. Il faut attendre de voir comment ça va évoluer. Personne ne sait si ce sera quelque chose qui sera rémanent, qui sera tout le temps, ou si finalement ça va disparaître. La grande majorité actuellement des scientifiques disent qu'il y a des risques que ce soit une épidémie qui soit récurrente, un peu comme la grippe l'est devenue après la fameuse épidémie de grippe espagnole de 1917.
Eh bien merci, en tout cas, docteur Alain Perret, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le chef des urgences du centre hospitalier de Narbonne et président de la commission médicale d'établissement. Et nous venons de faire le point ensemble sur la situation au centre hospitalier de Narbonne. Merci beaucoup.
Merci à vous et meilleurs vœux.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.